Merci à l'équipe de louange. Si quelqu'un a besoin d'une Bible, peut-être que vous n'avez pas de Bible, simplement levez la main. Les placeurs vont vous apporter une Bible tournée dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22. D'accord? Quelques nouvelles. Je voudrais premièrement remercier tous les gens qui sont venus. Vous avez vu les planchers ce matin? Hein? C'est génial. Une bonne main d'applaudissement. Moi, je les ai vus travailler vendredi. La salle était vide, puis c'est Antonio qui dirigeait tout ça, tous les travaux. Merci beaucoup, Antonio. C'est très apprécié. Ça fait du bien. Et puis, là, j'ai pas vu combien il y avait de monde le samedi. J'espère que vous avez assez de monde, parce que c'était tout un travail à remonter. Où est-ce qu'il y a mon Adnan, là? Où est-ce qu'il y a Adnan? Il est par là-bas. J'espère que vous avez assez de monde, Adnan. Ça a bien été? Oui. T'as fini à quelle heure? 6 heures, bon, grosse journée de travail. Merci, merci beaucoup. Je voulais aussi vous mentionner, vous avez vu que la librairie est fermée, la librairie Diffusion Vie, nous on reprenait les locaux. Je donnerai pas beaucoup de détails ce matin, mais juste un petit point d'information là. Nous on reprenait les locaux avec l'arrivée de la garderie, tout ça, on reprenait les locaux à l'étage et puis on installait nos bureaux là. Et eux, ils ont fait l'acquisition d'un édifice sur Marie-Victorin. Alors, si vous cherchez la librairie Diffusion Vie, elle est maintenant sur Marie-Victorin. Ils sont là. L'aménagement est super beau. Ils ont vraiment fait un très, très beau travail. On va éventuellement avoir un comptoir de livres ici avec une sélection de, j'espère, à peu près 100-150 titres qu'on vous recommande dans tous les sujets, avec de la musique chrétienne aussi. On commence à travailler sur ça. Alors, s'il y en a qui désirent venir s'impliquer davantage, on a quelques personnes intéressées, mais ça va être quand même un petit peu de travail, tout ça. Il faut faire un suivi des commandes, ces choses-là. Et puis, l'autre local est alloué en attendant éventuellement qu'on en ait besoin pour la zone des explorateurs, probablement, comme une deuxième salle. Celle-ci pouvant accueillir à peu près 40 enfants, l'autre probablement jusqu'à 80. Alors, quand le besoin se fera sentir, quand on sera prêt financièrement, ce sera probablement un local utilisé pour ça à ce moment-là. Et je crois qu'on a mentionné la semaine dernière, là, vous n'avez pas l'opportunité encore de visiter le local, mais la porte est installée pour un nouveau local pour Bouffe pour tous. Alors, Bouffe pour tous, pour nous, c'est simplement une distribution qu'on fait ici. On ne va pas redevenir un centre de tri comme on avait à Brossard, tout ça. On a donné tout ça à Mission Nouvelle Génération, mais il y a quand même du matériel, il y a quand même des choses qui sont nécessaires, et donc on voudrait développer un local qui va être servir à l'entraide de l'Église et à l'entraide des gens qu'on veut aider à travers Bouffe pour tous. Et ce local-là va avoir cette mission conjointe-là. Alors, éventuellement, on vous parlera de ça, puis on vous donnera plus de nouvelles sur ça. Une autre nouvelle aussi, on a un changement au niveau du responsable de la jeunesse Boomerang. Alors, c'est notre frère Marcel Leduc, accompagné de son épouse Linda, qui était responsable de ça. Marcel a des problèmes de santé qui viennent, qui repartent, et c'était lourd à ce moment-ci pour lui. Et il y avait un collègue depuis le début, je pense, André est impliqué avec Marcel, André Chaperon. André, c'est juste levé. André est sur un piédestal ce matin, il a bon arrière. D'accord? Merci, André. Alors, André a accepté officiellement de devenir le responsable de la jeunesse. Linda va continuer à venir faire un tour, Marcel, si possible. On va voir tout ça selon la santé. Mais vraiment, on remercie André. Il y a toute l'équipe jeunesse qui est autour. Ça repose pas seulement sur les épaules d'un frère. Mais André le fait avec passion. Il aime là. Il a une vision pour les jeunes. Il est là. Et on est reconnaissant quand Dieu pourvoit à travers les aléas de la vie dans l'Église, pourvoit comme ça à des serviteurs qui ont vraiment à cœur. Ma fille est à Boomerang, mon fils attend juste d'y aller et c'est vraiment une bénédiction dans l'Assemblée ici. Une requête de prière. Ceux qui peuvent recevoir des courriels, vous avez reçu un courriel que je vous ai envoyé, j'ai donné quelques nouvelles dedans et il y avait une requête de prière pour notre sœur Thérèse Martin. Madame Coco Licchio pour les anciens qui se rappellent comment on l'appelait. Alors, Mme Martin est une dame qui a connu le Seigneur dans notre assemblée, à l'époque sur la rue Lafayette, dans les années 80. Et elle a aujourd'hui 84, si je ne m'abuse. On est allé la visiter cette semaine, André Larue et moi, on est allé la visiter. Et au moment où on est allé la visiter, elle était aux soins palliatifs. Elle était encore toute vive, toute là, bien présente. On a ri. Ceux qui connaissaient Mme Martin, c'est quelqu'un qui... C'est une femme de prière, c'est une femme joyeuse, c'est une femme qui se confie en Dieu. à tout moment, qui cherche à édifier avec sa bouche. Et on a ri ensemble, on a prié ensemble, on a partagé dans les Écritures. On a eu un bon temps, elle était toute vive. On voyait qu'elle était en train de s'affaiblir beaucoup. Et là, j'ai eu des nouvelles ce matin par d'autres personnes qui sont allées la visiter hier, Yves et Joanne Ferland, qu'elle ne parlait plus du tout. Là. Et donc, elle est fermée, l'énergie a baissé énormément. Son frère aurait dit que c'était l'étape où on est rendu. Alors, probablement qu'il va y avoir de nouvelles étapes dans la prochaine semaine. Je vous demande de prier pour Mme Martin, dans la mesure où elle est toujours là puis elle nous entend, de prier pour son cœur, hein, sa paix. On est chrétien, on place notre foi en Dieu, mais comme on parlait, il y a toujours un... On fait le grand saut, là. On fait le grand saut et on s'appuie sur l'espérance que nous avons en Jésus-Christ à cause de son œuvre et sa fidélité. Mme Martin peut raconter la fidélité de Dieu à travers des décennies. Et donc, on s'appuie sur la parole de Dieu, cette espérance, mais on fait quand même le grand saut. Et donc, il y a des moments où tu dis, « Oh Seigneur, j'espère que juste quand je ferme les yeux, tu me prends la main tout de suite. J'espère que c'est comme ça que ça se passe. » Mais je suis reconnaissant à Dieu pour le temps qu'on a eu avec elle. Alors, gardons-la dans la prière. Si vous le voulez, on va prier tout de suite. On va prier pour Mme Martin, puis on va prier pour ce temps dans la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je veux t'adorer ce matin. Je veux élever ton nom, Seigneur, au milieu de cette assemblée. Je veux célébrer le nom de Jésus-Christ. Tu es notre espérance, Seigneur. Seigneur, tu es intervenu dans l'histoire de l'humanité comme personne d'autre ne l'a fait et ne le fera jamais. En offrant ta vie en sacrifice sur cette croix, Seigneur, ce n'était pas un acte religieux que tu venais poser, Seigneur. Ce n'était pas un acte pour attirer l'attention que tu venais poser, Seigneur. C'était un acte de réconciliation que tu venais poser, Seigneur. Ce sacrifice sur la croix a ouvert la porte pour ma réconciliation avec un Dieu saint. Avec un Dieu que j'avais rejeté, que l'humanité, Seigneur, a rejeté. Et je veux t'adorer ce matin, Seigneur Jésus. À cause de ton œuvre à la croix, tous ceux ici qui, comme moi, ont placé leur foi en Jésus-Christ, comme Mme Martin, nous sommes remplis d'espérance, Seigneur. Et notre espérance ne repose pas sur des philosophies, notre espérance ne repose pas sur des raisonnements, sur des hypothèses, mais sur un événement qui s'est produit dans l'histoire de l'humanité. Un événement grandiose et surnaturel, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce d'être entré dans ma vie, d'avoir touché mon cœur pour que mon cœur s'attendrisse et que je sois prêt à entendre ce message et y placer ma foi. Je veux te remercier, Seigneur, d'être entré dans la vie de Thérèse Martin. Dans les années 80, Seigneur, de l'avoir soutenu dans sa foi à travers une belle vie et une vie en même temps parsemée d'épreuves, Seigneur. Je te remercie d'avoir soutenu sa foi à travers les dernières années avec tous les problèmes de santé qu'elle a eus, Seigneur, et d'avoir continué à faire d'elle une femme de prière, une femme inspirante, Seigneur, un modèle pour moi, Seigneur. Toujours une bonne parole pour nous aider à nous tourner vers toi et à rendre grâce, Seigneur. Oh, comme j'aspire, Seigneur, à être comme cette femme. Père, nous te prions à ce moment-ci, ne sachant pas exactement l'état de sa santé, ne sachant pas si tu es venu maintenant la chercher, Seigneur, nous te prions pour que tu la soutiennes, que tu lui donnes ta paix, Seigneur, un repos profond, Seigneur. Nous te prions, Père, pour toute la famille. Elle a tant prié pour sa famille, Seigneur. Elle a tant prié. Exauce ses prières. Je t'en prie, Père, exauce ses prières. Maintenant, cette semaine, dans les mois, les années à venir, Seigneur, exauce ses prières pour sa famille. Je t'en supplie, Père. Je te prie de diriger, Seigneur, la suite des événements avec la famille. Merci pour... leur réceptivité, leur désir de faire les choses comme elles le désiraient, Seigneur. Je te prie, Père, d'ouvrir nos cœurs maintenant ce matin à ta parole. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin que ta parole soit vie en nous ce matin, Seigneur. Car tu es merveilleux, mon Dieu. Alors sois avec moi. Accorde-moi la grâce d'être clair. Accorde-moi la grâce d'être dans le mille, Seigneur, avec ta parole. Et d'apporter un message qui vient de toi, non pas de moi. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors, priez pour elle, priez pour la famille, priez pour nous cette semaine, s'il vous plaît. On vous tient au courant dès qu'on a des nouvelles, bien sûr. Tout le mois de janvier, on fait quelque chose de particulier. Généralement, dans cette assemblée, on essaie de se concentrer dans la prédication à exposer des livres. D'accord? C'est pas des salles d'exposition, on expose des livres. Quand je dis exposer des livres, ce que ça veut dire simplement, c'est qu'on prend un livre et on progresse systématiquement à travers le livre pour exposer la pensée de l'auteur. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire à travers ce livre-là? La pensée de Dieu à travers ce livre-là. Et on traverse tout le livre ensemble. Dieu voulant, en février, on commence une autre grande série dans un livre au mois de février. De temps en temps, dans l'Assemblée, je décide des fois en discutant avec les anciens, parfois par conviction personnelle, d'adresser des sujets spécifiques. Et j'ai décidé cette année de commencer l'année en voulant adresser certains sujets afin de bien commencer l'année, afin de bien partir l'année et donner le ton, personnellement, individuellement, dans nos foyers, en Église aussi, quel est le ton qu'on veut donner à cette année 2012, d'accord? La semaine dernière, on a parlé ensemble dans le livre de Josué, vous vous rappellerez, à un moment charnière dans l'histoire du peuple d'Israël. Nous avons parlé ensemble de cet appel que Josué a fait à chaque foyer de prendre une décision personnelle, chacun pour soi. Parce que le peuple, après avoir marché ensemble pendant des années, est maintenant dans la terre promise et chacun va aller établir son foyer, établir sa maison. Ce qui est le cas pour nous, n'est-ce pas? On est ensemble ici le dimanche, on se côtoie un peu pendant la semaine à travers des ministères, des petits groupes, tout ça, mais ensemble, on est chacun de notre côté en train d'établir notre foyer. Et Josué leur a dit, faites un choix maintenant, les amis. Parce que si vous ne faites pas un choix, vous allez être emportés par la vie et vous allez vous éloigner de Dieu. Mais faites un choix aujourd'hui de suivre ou non l'Éternel. Ma maison et moi, a dit Josué, nous avons choisi de servir l'Éternel. Quel est votre choix? Si vous ne voulez pas servir l'Éternel, c'est correct, choisissez parmi les dieux des Égyptiens ou les dieux des Amoréens. Faites un choix. C'est ça qu'il leur dit, Josué. C'est assez provoquant. Et Israël dit évidemment, voyons, Josué, tu nous connais. Tu nous connais, Josué. On a choisi de servir l'Éternel. Et Josué dit, c'est bon, alors allez faire le ménage de vos tiroirs, sortez les idoles que vous avez apportées d'Égypte, jetez ça aux poubelles maintenant. Faites le ménage. Faites disparaître de votre vie toute idole. Et on a vu ensemble la semaine dernière, à la lumière du Nouveau Testament, qu'une idole, c'est des choses malsaines, des choses saines même, mais toute chose, toute personne, tout projet, tout rêve, tout objet qui devient dans notre cœur un Dieu, qui vient prendre la place de Dieu dans notre cœur, qui devient une passion pour nous plus grande que Dieu, qui devient dans notre cœur une zone de réconfort supérieure à Dieu. On a vu ça dans Éphésiens. Le Nouveau Testament nous aide à voir que les idoles, ce n'est pas juste des petits morceaux de bois qui ont été taillés, des pièces d'argile ou des morceaux d'or. Mon épouse peut être une idole pour moi. Ça peut être un Dieu qui prend la place de Dieu si ma joie, ma vie, mon repos dépend uniquement de sa bénédiction, de son appui. Non pas que ce n'est pas important. J'ai besoin que ce temps me dise, « Ah, Yannick, j'aime ça voir ce que Dieu fait dans ta vie. J'ai besoin de ça. » Mais qu'est-ce qui arrive si ce n'est pas là? Mon idole pourrait être cette femme que j'aimerais avoir dans ma vie, cet époux que j'aimerais avoir dans ma vie. Puis, Seigneur, la vie n'a pas de sens tant que tu ne m'en donneras pas un. Ma vie n'a pas de sens. C'est une bonne chose pourtant. C'est tellement légitime comme aspiration, n'est-ce pas? Les biens matériels, tout ça. Hein? On a vu ça la semaine dernière. Faire un choix, si j'ai fait un choix clair, identifier des idoles qui sont là, qui sont venues s'incruster, s'installer en 2011 ou qui traînent depuis des années et prendre la décision de les faire disparaître de ma vie. Et ça prend une décision. Cela prend une décision. Maintenant, si je désire qu'en 2012, ma maison et moi nous approchions de Dieu et l'Église de l'Espoir s'approche de Dieu, je ne souhaite pas, ni pour vous, écoutez bien ceci, je ne souhaite pas, ni pour vous, ni pour ma famille, que nous devenions plus religieux. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne souhaite pas que nous grandissions dans nos pratiques religieuses. Ce n'est pas de ça dont je parle. Cette semaine, il y a une petite vidéo qui a circulé sur Facebook. Ceux qui sont sur Facebook, vous avez vu ça, une petite vidéo de Jefferson, je ne sais pas comment on prononce son nom en anglais, Betke, ça serait tout ça? Ça ressemble à ça? I hate religion. Un bon petit vidéo. C'est bien fait. C'est un jeune homme qui dit « Jésus est venu abolir la religion, Jésus était contre la religion. » Puis là, il commence à dénoncer, on s'entend, tout ce qu'on conçoit comme une religion crasse. Une pratique religieuse qui nous permet de nous donner une bonne conscience, mais qui en réalité est une façade, n'est pas l'expression d'un cœur passionné pour Dieu. Et c'est vrai que Jésus en avait compte ça. Et donc, ce jeune homme s'applique à dénoncer tout ça. Puis là, après ça, il y a eu d'autres réponses, parce que peut-être qu'il y a des nuances à apporter dans son propos. Puis là, hier, j'ai lu Kevin DeYoung, ceux qui étaient là avec nous à Sola. Kevin était un des prédicateurs, un homme tout en nuances, une belle maturité. Kevin a échangé sur lui. Vous pourrez aller voir sur ma page Facebook, j'ai mis simplement l'échange, tout ça, puis vous pouvez lire les courriels qui se sont échangés. Et j'aime l'attitude de ces deux hommes-là qui viennent apporter ces nuances-là. Parce que dans le fond, Jésus-Christ n'est pas venu abolir la religion. Le terme religion, c'est un terme neutre, ça parle d'un service à Dieu. Jésus-Christ est venu attaquer, critiquer toute fausse religion, particulièrement celle qui repose sur de l'hypocrisie, une espèce de pratique qui est juste là pour se donner bonne conscience, pour pouvoir dire sur mon checklist, j'ai fait mon cardio ce matin, j'ai lu ma Bible ce matin, je suis allé à l'église ce matin, I'm a good guy. Je suis un bon gars. Et ça, c'est vrai, Jésus a attaqué ça. Mais en même temps, ce que Jésus voulait, c'était la vraie religion. La vraie religion. Et c'est ça que Jésus recherchait. Alors, j'ai bien aimé l'échange qu'il y avait entre ces deux gars-là. Puis, si vous avez accès à Internet, vous irez lire ça. C'est vraiment intéressant. Ça pousse la réflexion un petit peu plus loin. La religiosité pour la religiosité ne mène nulle part. Et certains d'entre vous, c'est ce que vous vivez. Certains d'entre vous, vous venez ici, peut-être que dans le passé, il y avait une passion, mais il n'y en a plus maintenant. Vous pratiquez de la religiosité, vous êtes des gens religieux. Personnellement, lorsque j'étais au primaire, je n'étais pas chrétien, mais à partir de l'âge de 7 ans, je suis venu dans cette assemblée. Et donc, lorsqu'on me demandait à l'école, « Toi, c'est quoi que tu crois? » Ben, je disais, « Moi, je suis un baptiste. » J'aimais ça, j'étais comme... C'est drôle, hein? Mais j'aimais ça, j'étais comme à part de tout le monde. Là, ils commençaient à me poser des questions, puis je disais tout ça, tu sais, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est juste une religion pour moi, cette affaire-là. C'est la croyance de mes parents. Jésus-Christ n'était pas mon Seigneur. Rien à voir. Certains d'entre vous, c'est là que vous êtes. Vous pratiquez une religion. Vous pourriez aussi bien être Krishna, musulman ou n'importe quoi. Peut-être que ça va plus ici, ça rentre plus dans vos valeurs, on vous a amené ici, c'est à ça que vous avez été introduit. Je ne sais pas pour quelle raison, mais vous pratiquez une religion. Certains d'entre vous êtes enfants de Dieu, vous avez connu personnellement Jésus-Christ, et pour toutes sortes de raisons que vous connaissez, vous pratiquez aujourd'hui une religion. Pourtant, vous connaissez vraiment Jésus-Christ. Moi, je crois que je me suis converti à l'âge de 19 ans. D'accord? Pour autant que je comprends mon cheminement. C'est assez mystérieux, ça, des fois. Je me suis converti à 19 ans. Alors, avant, je pense que je n'étais pas chrétien et je pratiquais une religion. Certains sont chrétiens et pratiquent une religion aussi. Et si Jésus-Christ avait une conversation avec vous, marchait dans vos mocassins quelques jours, regardait votre vie et dirait, « Toi, puis un pharisien, je ne vois plus la différence. » Et selon votre attitude, si vous étiez baveux ou humble, vous pourriez terminer avec des surnoms de la part de Jésus, comme sépulcre blanchi ou vieux tombeau pourri ou des trucs comme ça, tu sais. Mais certains d'entre vous, c'est là que vous êtes. La religiosité pour la religiosité ne mène nulle part sinon à l'hypocrisie et à essayer de se donner une bonne conscience. Je désire pour moi et pour vous en 2012 que nous ne grandissions pas en religiosité crasse, mais dans la vraie et la saine religion qui est un amour pour Dieu, un amour pour Jésus-Christ. Voici comment je le résume. Moi, ce que je vous souhaite en 2012, c'est d'aimer beaucoup. En 2012, ce que je désire pour vous, pour ma famille, pour moi-même, c'est d'aimer comme j'ai jamais aimé à date dans ma vie. Aimer Dieu comme je ne l'ai jamais aimé dans ma vie et aimer mon prochain comme je ne l'ai jamais aimé dans ma vie. Et c'est ça que je désire pour toute l'Assemblée, que vous aimiez en 2012 Dieu et votre prochain comme vous n'avez jamais aimé jusqu'à présent. Parce que je désire que vous soyez heureux en 2012. Je souhaite de tout mon cœur que malgré toutes les circonstances de votre vie, vous soyez heureux en 2012. Et pour cela, je souhaite que vous grandissiez dans votre amour pour Dieu et dans votre amour pour votre prochain. Tournez avec moi dans Matthieu 22, si ce n'est pas déjà fait. Il y a 2 ans, nous étions dans ce passage le 31 janvier 2010, d'accord? J'étais en train de passer à travers, en train d'exposer l'Évangile selon Matthieu. On arrivait vers la fin, 31 janvier 2010. J'ai pris le temps de relire mes notes. On était dans ce passage-là, précisément, il y a 2 ans. Et probablement que je vais leur prêcher dans 2 ans ce passage-là. D'accord? Matthieu 22, 36. À 40. Je vais commencer au verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, contexte rapidement, Jésus est en train de passer des tests, les hérodiens, les sadducéens, les pharisiens, ils viennent tous, toute la gang de un, ils viennent un après l'autre, ils font passer des examens, haut la main. C'est bon? Ils les passent tous, ça va se terminer avec « ils n'osèrent plus lui poser de questions à compter de ce jour ». C'est bon? Alors, les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. C'était une discussion qui courait déjà parmi les Juifs. Est-ce qu'on peut dire que dans l'Ancien Testament, il y a des commandements qui sont supérieurs à d'autres commandements et il y avait différentes hypothèses qui étaient formulées? La réponse que Jésus va donner n'est pas révolutionnaire. Certains défendaient déjà ça, d'accord? Parce qu'on a des écrits qui nous le rapportent aussi. Mais voici ce que Jésus répond. Alors, il lui demande, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Maintenant, ce qui est nouveau avec Jésus, c'est vraiment la phrase qui suit. Jésus dit de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, quels sont les 2 plus grands commandements selon Jésus? Aimer Dieu avec tout ce que je suis comme personne. D'accord? Ici, Jésus dit la pensée au lieu de la force, si vous allez dans Deutéronome. Et hop, Jésus change ça un petit peu. Mais l'idée vraiment, c'est toute ma personne qui est appliquée à aimer Dieu. Entier. Et ensuite, toute ma personne qui est appliquée à aimer mon prochain. Comme je vais prendre soin de moi-même, je vais chercher à prendre soin de mon prochain. Et puis Jésus ajoute ceci, il dit de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En un certain sens, tout ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament repose et dépend de ces 2 commandements. Je ne suis pas en train de dire que si vous faites ces 2 choses-là, vous accomplissez toutes les volontés de Dieu. Non, les lois et les commandements sont là pour nous aider à comprendre. Ça veut dire quoi aimer mon prochain dans telle circonstance? Ça veut dire quoi aimer mon prochain dans telle situation? Ça veut dire quoi aimer Dieu dans telle circonstance? Mais si vous perdez ces 2 commandements-là, tout ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament perd son sens. Ces 2 commandements doivent être le motif de ma vie, la motivation de ma vie. Chaque jour, lorsque je me lève, c'est poursuivre ces 2 commandements-là que je vais chercher à faire. Parce que tout l'Ancien Testament dépend de ces 2 commandements. C'est le moteur, le motif pour obéir et faire tout ce que Dieu commande. Voici comment je le formulais il y a 2 ans dans ma prédication. L'amour pour Dieu et pour mon prochain doit être ma motivation principale dans la vie. L'amour pour Dieu et pour mon prochain doit être la motivation principale dans ma vie. Je le reformulerai peut-être un petit peu différemment aujourd'hui. Je dirais, ça doit être l'objectif principal de ma vie et ma motivation, c'est l'Évangile. Ce qui me motive, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Mais l'objectif principal de ma vie, quand je me lève le matin, ce qui me drive, ce qui me pousse en avant, ce que je poursuis, ce qui m'excite, c'est d'aimer Dieu de tout mon cœur et d'aimer mon prochain comme moi-même. Voilà ce qui devrait me pousser. Cette semaine, c'était quoi ta drive, comme on dit au Québec? Sortir d'une situation inconfortable? Faire un petit peu plus d'argent? Dieu, peut-être que c'était ça. où vous êtes promené, hein? On est un petit peu comme le peuple d'Israël. C'est quoi qui te drive de ce temps-ci? C'est quoi qui te motive? Qu'est-ce qui te donne du gaz de ce temps-ci? Qu'est-ce que tu poursuis? Où est-ce que tu t'en vas? Vous savez, ce à quoi on pense lorsqu'on décroche de ce qu'on est en train de faire au quotidien, ton rêve, il s'en va où? Quand tu commences à rêvasser, à quoi tu rêves? J'ai réalisé à un certain moment donné dans ma marche chrétienne que je rêvais jamais à des conversions. Je ne parle pas des rêves de nuit, là. Vous comprenez? Je ne parle pas de ça. Quoi que ça serait le fun. Mais c'est pas de ça que je parle. Mais j'ai réalisé que je me préoccupais de l'Église. Il faut que l'Église, OK, il faut prendre soin des gens. Oui, il faut faire ça. Il faut que je prêche bien la parole de Dieu la semaine prochaine. J'avais plein de choses, mais c'est drôle. Quand je tombais au neutre puis que ma pensée commençait à partir, c'était jamais comme « Oh, Seigneur, je vois Longueuil se convertir. Je vois ma famille venir au Seigneur. Moi, c'est ça que je rêve, Seigneur. » C'est quoi qui te motive? C'est quoi qui te pousse? Est-ce que c'est une forme ou une autre de ces deux commandements-là? Ton amour pour Dieu et ton amour pour ton prochain. Est-ce que c'est ça qui te motive, qui te pousse en avant actuellement dans ta vie? Parce que ce sont les deux plus grands commandements. Ce sont les deux plus grands commandements que les Saintes Écritures nous donnent. Et tout ce que vous pouvez concevoir comme religiosité, dans le bon sens du terme, repose sur ça, dépend sur ça. C'est par l'œuvre de Christ qu'on peut l'accomplir, mais ce qu'on veut accomplir, c'est ça. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Qu'est-ce qui te motive actuellement? Voyez-vous, Dieu désire une religion qui repose sur un amour profond. En définitive, ce que Dieu désire, c'est une relation. Dieu désire que je sois en relation avec lui, une relation d'amour, et que j'entre dans des relations avec les gens, des relations d'amour aussi. Et ça a toujours été comme ça. Tournez avec moi dans Deutéronome, s'il vous plaît, au chapitre 6. Des fois, on a l'impression, ce matin dans mon cours d'histoire, je citais Marcion qui disait que Marcion, c'était un hérétique, quelqu'un qui enseignait des fausses doctrines, qui disait qu'il y avait le Dieu de l'Ancien Testament, celui du Nouveau, les deux étaient en conflit, tout ça, puis méchant Dieu de l'Ancien Testament. N'importe quoi, là. Mais parfois, on a l'impression, vous l'entendez d'amis qui ne sont pas chrétiens, et certains chrétiens s'en tiennent surtout au Nouveau Testament, parce qu'ils disent l'Ancien Testament, ouf, c'était beaucoup de lois, cette affaire-là. C'est faux. Dieu a toujours désiré une religion qui est en fait l'expression d'un amour profond pour Dieu, une relation sincère avec lui. Dans Deutéronome au chapitre 6, les versets 5 et 6, voici ce qu'on lit. Tu aimeras, c'est un commandement d'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ce que Dieu désire de notre part, c'est de l'amour. Bon, je ne commencerai pas à dire Dieu a besoin d'amour. Mais ce que Dieu désire de notre part, c'est de l'amour. C'est que je sois passionné pour lui. Et que sa loi, ce qu'il attend de moi, soit dans mon cœur. Pas juste dans le livre, pas juste sur les tablettes, pas juste comme un principe, une étiquette qui m'identifie, comme lorsque j'étais au primaire, puis je disais, moi je suis baptiste, vous voulez savoir c'est quoi, je vais vous en parler. Dans mon cœur. La loi de Dieu, la parole de Dieu, les préceptes de Dieu, là où ils doivent résider, avant d'être sur nos tablettes, c'est dans notre cœur. Parce que c'est ça qu'on va communiquer, c'est ça qu'on va dire autour de nous, c'est ça qui nous passionne. Qu'est-ce qui réside dans ton cœur? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui te stimule? Qu'est-ce qui te fait avancer? C'est ça qui réside dans ton cœur. Mais la loi de Dieu est belle et elle est bonne, et Dieu nous l'a donnée afin que nous soyons heureux, profondément heureux, en toutes circonstances, même au milieu des larmes, des brisements que la vie peut apporter, il est possible de vivre au fond de soi un bonheur sincère. Croyez-vous ça? Au milieu d'un cancer, au milieu de déchirements dans les relations humaines, au milieu des pires épreuves que vous pouvez imaginer, c'est possible au fond de soi de savoir que Dieu nous aime, d'être en paix avec Dieu et de dire, « Seigneur, quoi qu'il en soit, je t'aime et tu m'aimes, je le sais, Seigneur. » Je continue à pleurer, je continue à crier quand ça fait mal. C'est possible de vivre ça. Et c'est ce que Dieu désire. Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Tu commences 2012. Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Qu'est-ce qui a été au fond de ton cœur en 2011? C'est quoi tes préoccupations en 2011? C'est quoi tes rêves? Où est-ce que tu t'en allais? Comment tu te dirigeais en 2011? La loi de Dieu est parfaite. Et Dieu désire notre bonheur. Et ce premier commandement-là a toujours été là dans la relation entre Dieu et son peuple. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de toi en 2012. C'est que tu l'aimes profondément, afin que tu sois heureux. Mais non seulement notre amour pour Dieu, mais notre amour pour le prochain. Tournez avec moi dans Ésaïe. D'accord? On avance un petit peu dans le temps. On s'en va dans un des grands prophètes. Ésaïe au chapitre 1. Vous êtes peut-être un petit peu moins familier. À peu près la moitié de votre Bible un peu avant. C'est quand même un grand livre. Je vais vous lire une longue section, je vais vous lire les versets 10 à 17. C'est un texte qui est dur, d'accord? Premier verset, « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. » Dieu ne s'adresse pas ici à Sodome et Gomorrhe. Ils ont été détruits, il s'adresse à Israël. OK? Le jour où je viendrai prêcher en avant, puis je vous dirai, « Sodome, écoute-moi. » Vous saurez que je suis vraiment, vraiment pas content. C'est bon? Alors, il s'adresse à Israël, puis il leur dit, voici ceci. Il va faire une critique de leur religiosité, une critique de leur application du deuxième plus grand commandement. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer à vos solennités. Voyez-vous la vraie religion est devenue une religiosité crasse où ces pratiques-là sont dénuées d'un sentiment réel, d'un attachement profond à Dieu. Et il dit, « Je ne suis pas capable de voir ça. Gang d'hypocrites. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je ne puis, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. » Et au verset 17, ça devient encore plus concret. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ces gens-là se rendaient le jour du sabbat pour adorer Dieu, alors qu'ils avaient fermé les yeux sur la pauvreté autour d'eux, sur les gens qui souffraient autour d'eux, sur les injustices sociales qu'il y avait là. Ils ne se préoccupaient pas de ça et se trouvaient juste devant Dieu. Certains en abusaient, certains en profitaient, alors que cette société, le peuple d'Israël, devait être le reflet de la pensée du cœur de Dieu, des qualités de Dieu dans ses rapports mutuels. Et Dieu dit, « Votre religiosité, j'en ai rien à cirer. Gang d'hypocrites. Parce que vous n'aimez pas votre prochain. Ça vous donne quoi de venir faire des prières? Je t'aime, mon Dieu. » Jean dit, dans son épître, « Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois. C'est exactement la même chose qui est dite ici, dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Voyez-vous, depuis toujours, ce que Dieu désire, ce que Dieu désire, c'est la vraie religion dans notre cœur. C'est un vrai sentiment d'amour envers Dieu, avec un cœur non partagé, duquel on chasse les idoles quotidiennement lorsqu'elles veulent venir s'installer. Et un sentiment d'amour réel pour mon prochain, qui qu'il soit. Et des fois, je ne peux pas aider, des fois, je peux seulement prier, seulement donner une parole d'encouragement. Mais mon cœur ne s'endurcit pas à l'égard des hommes et des femmes que Dieu a créés à son image. Non, mon cœur reflète le cœur de Dieu avec une compassion réelle et les quelques ressources que j'ai à donner. Mais mon cœur reflète le cœur de Dieu plutôt que de s'endurcir envers les gens autour de moi. Je suis dans l'Ancien Testament ici. C'est le Dieu de l'Ancien Testament qui est le Dieu du Nouveau Testament, qui est le Dieu de l'univers. Dieu a toujours désiré cette relation sincère et vraie. Est-ce que vous seriez prêt cette semaine à faire un exercice? D'accord? On commence 2012, puis encore ce matin, j'étais en train de prier, puis je disais au Seigneur, quand tu prends le temps de me montrer tout ce qui a travaillé dans ma vie, je suis écrasé. Il y en a trop. Des fois, c'est des niaiseries, mais tu te dis, mais Seigneur, ça fait 15 ans qu'elle dure cette petite niaiserie-là. C'est comme, fais le ménage, fais de quoi? Alors, je ne vais pas y aller sur le global, d'accord? Voici ce que j'avais à cœur pour l'Assemblée et pour chacun d'entre nous, pour nos foyers. Est-ce que vous seriez prêts ce matin, cette semaine, à mettre dans la prière, chercher la face de Dieu et dire, Seigneur, comment est-ce que je peux grandir à l'égard du premier commandement d'une manière concrète? Puis à l'égard du second commandement d'une manière concrète. Cherchez la face de Dieu cette semaine. Allez prendre un café avec un ami, discuter avec votre épouse ou votre époux. Hein, parce que Dieu nous parle à travers sa parole, Dieu nous parle à travers ce qu'il met sur notre cœur, Dieu nous parle à travers les gens autour de nous, chrétiens même des fois non chrétiens, Dieu nous parle. Il met en évidence des choses qu'il est en train de travailler dans nos vies. Premièrement à travers sa parole, puis ensuite avec tout ça. Est-ce que vous seriez prêts cette semaine? Allez dans la prière. Vous dites, Seigneur, montre-moi une manière concrète où tu désires que je grandisse par rapport au premier commandement. Peut-être que c'est dans votre temps quotidien avec Dieu. Peut-être que c'est ça cette année. Peut-être que c'est dans la prière. Je vous le dis, je l'ai partagé à l'Assemblée. Je cherche encore à grandir dans ma vie de prière. J'ai tellement besoin. Je prie constamment, je ne prie pas suffisamment. Et je cherche à grandir. Ça va être encore ça pour moi cette année. Un domaine, une manière dans votre amour pour Dieu. Peut-être que c'est une idole. Une idole. Vous savez que les chrétiens, à l'époque de la Réforme, on s'est fait traiter d'iconoclastes. Hein? Je ne pense pas que j'aurais embarqué dans la gang. Peut-être au début, j'aurais été assez fou pour ça. Mais les gars prenaient des masses. Lorsqu'ils ont découvert que l'Église catholique amenait le culte des saints plutôt que le culte de Dieu, prenaient des masses, rentraient dans les églises catholiques, paf! Pétaient les icônes. C'est des iconoclastes. Bon, c'est discutable. D'accord? Mais pas dans votre vie! C'est ça que vous devez faire avec vos idoles dans votre vie. Prenez la masse puis fracassez-moi ça. Est-ce que vous êtes prêt à le faire cette année en 2012 avec une idole dans votre vie? Le Saint-Esprit a mis tous les spots qu'il peut mettre, tous les phares, ça clignote comme ça, c'est gros, il y a des flèches illuminées depuis des mois juste sur cette idole-là. Vous le savez? Prenez la masse puis fracassez-moi ça, cette affaire-là. Sortez ça du temple, de votre corps, de votre cœur, de vos pensées, afin que le Saint-Esprit puisse commencer à vous parler, parce qu'il est attristé, il est comme confiné dans un petit tiroir bien barré. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça cette année? Je plaide avec vous. Dans un domaine. Et moi, je vous encourage cette semaine à, je vous le dis sérieusement, faites pas ça seul comme réflexion. C'est mal comprendre la vie chrétienne que de faire ça seul. Faites ça avec votre épouse, avec votre époux, avec un ami, avec un frère dans l'Église. Commencez dans la prière, mais allez partager. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Dieu veut travailler ça, puis ça se peut que j'ai besoin d'un coup de main en passant, ça se peut que j'ai besoin de prière, ça se peut que j'ai besoin de conseils, parce que, bon, je sais pas, mais je pense qu'elle est coulée dans le béton, celle-là. Je sais que l'Évangile, théoriquement, est assez puissant pour la sortir de ma vie, mais j'ai beau frapper, c'est « ponk ». ça ne marche pas. Puis un domaine par rapport au deuxième commandement, dans votre amour pour votre prochain. Et là, les exemples sont infinis, n'est-ce pas? Ça peut être avec votre épouse, quelque chose que Dieu vous met à cœur, de travailler dans votre amour pour votre épouse, pour vos enfants, pour des collègues de travail. Ça peut être tout simplement dans votre don de soi, dans votre service dans l'Église, mais dans des œuvres. On a parlé tout à l'heure, il y a eu une présentation qui a été faite. Ça, c'est du don de soi, là. C'est vraiment un dépassement. On n'est plus dans le cadre du travail de cette organisation-là, CIM. On est vraiment dans une vision où on veut bénir les gens autour de nous, puis créer des relations. Peut-être que c'est en ouvrant votre maison pour accueillir des gens chez vous. Un petit groupe, inviter des personnes. Inviter des personnes à rentrer dans votre vie. Moi, avec Bouffe pour tous, je suis en train de découvrir que les personnes immigrantes ont de la place pour développer des relations. Moi, j'en ai comme plus. Chaque fois que je décide que j'en crée, c'est parce que je dis, Seigneur, je t'aime, je vais aimer mon prochain. Je crée de l'espace, mais eux autres, ils en ont de l'espace, je peux vous dire. Parce qu'ils vivent beaucoup de solitude. Et peut-être que c'est ça en 2012, ouvrir ton foyer, ouvrir de l'espace, du temps pour pouvoir aimer ton prochain. Je ne sais pas ce que c'est. Mais est-ce que vous êtes prêts cette semaine? Est-ce que vous êtes prêts cette semaine? À mettre ça dans la prière, à chercher la face de Dieu. Puis dire, Seigneur, on ne changera pas tout, là. En fait, tu changeras tout quand tu voudras. Mais moi, je vais commencer avec une affaire. Puis, s'il y en a qui décident de le faire, là, envoyez-moi des courriels. Écrivez-moi, encouragez-moi, dites-moi, Yannick, je ne veux pas savoir les détails, d'accord? De grâce. Mais dites-moi oui. Je veux grandir, je veux grandir. Je fais une parenthèse, d'accord? Je trouve qu'un élément qui est difficile avec les années dans la vie chrétienne, c'est qu'à un certain moment donné, on n'a même plus besoin que le Seigneur nous dise qu'il veut travailler, on le sait comme trop. Vous d'accord avec moi? Au début, tu sais, t'as l'impression que tu t'es converti, chouf, tout est clean, yes. Il reste une ou deux petites affaires à travailler, tout ça, puis plus tu t'approches de Dieu, plus tu dis, mais boy, c'est bien. Puis là, à un certain moment donné, il y en a qui sont plus des entraves, ça cause plus de problèmes, ça nuit plus à ta marche chrétienne, ça fait plus de dégâts autour, ça blesse plus de personnes. Fait que c'est comme tous les spots sont dessus, tu sais, puis t'as essayé une fois, deux fois, puis t'es découragé, puis tu sais pas comment tu vas réussir à y arriver. T'as pas d'idée comment tu vas réussir à y arriver. Je vais vous citer un texte, vous allez me détester de vous citer ce texte-là, je vous le dis. Vous allez dire, mon espèce, t'as pas d'affaire à me dire ça, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais, mais ça s'applique pas à moi. OK? Romains 8. Romains 8, 26. Oui, vous pouvez tourner avec moi, je m'excuse. De même aussi, l'Esprit nous aide, Romains 8, 26, dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste, et c'est là que vous ne m'aimerez pas. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Je trouve qu'avec les années où on avance dans la vie chrétienne, il y a certains domaines que Dieu veut travailler dans notre vie, que ce soit dans notre relation avec Dieu ou dans notre relation avec notre prochain, qui deviennent des zones, des endroits où on dit, « Mais Seigneur, pourquoi tu as permis? » Tu sais, on dit l'affaire qu'un chrétien n'est pas supposé dire, « Pourquoi tu m'as fait de même? Pourquoi tu m'as fait comme ça? » Comme si Dieu avait décidé que tu allais être fait d'une manière, que tu allais être poche toute ta vie. Il y a des domaines dans nos vies où on a voulu adresser ça, on a voulu lutter avec ça, puis ça revient. Il y a des épreuves, il y a des gens qui viennent dans notre vie, puis tu te dis, mais c'est une écharpe dans la chair, cette affaire-là, enlève-la de ma vie. Et ces passages-là deviennent vraiment irritants, deviennent fatigants. Ça ne concourt pas à mon bien, Seigneur, parce que chaque fois que ça se passe, je pêche. C'est comme, t'es pas glorifié quand je pêche, quand ça se passe, je pêche, ça concourt pas à mon bien, Seigneur. Vous vivez pas ça, vous autres? Moi, je le sais, parce que vous m'en parlez quand on est tout seul ensemble. Et il y a de ces domaines comme ça où on sait que Dieu veut travailler, mais c'est comme, si tu faisais juste l'enlever de ma vie, tu sais, il me semble que je ressemblerais à Christ. Cette année, j'ai décidé de mémoriser un passage, puis je vais vous le lire parce qu'il n'est pas tout mémorisé encore. Mais ça nous ramène à l'Évangile tranquillement. Et j'ai besoin, personnellement, j'ai besoin de ce passage-là. Parce qu'il y a des domaines où je dis, honnêtement, j'ai commencé à changer ma prière, puis j'ai commencé à dire, Seigneur, change-moi, mais j'ai aucune idée comment tu vas le faire. Je connais ta parole, je connais tout. Oui, je sais tout ça. Oui, oui, Seigneur. Doesn't work. J'y arrive pas. Mais je crois et je veux croire à cause de ce passage-là. Et je dis, Seigneur, je ne sais pas comment, comme tu veux. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 12, les versets 7 à 10. Je vais vous le lire, d'accord, parce que le temps file. C'est l'apôtre Paul qui parle encore une fois et il dit, 2 Corinthiens 12, 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter, pour me faire souffrir et m'empêcher de m'enorgueillir. » Ah, ça sert à quelque chose quand même. « Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai décidé de mémoriser ce verset-là cette année parce qu'il y a des choses dans ma vie, certaines relèvent du péché, d'autres relèvent de limites que Dieu permet dans ma vie, mais elles sont frustrantes, elles sont irritantes. Puis je dis, Seigneur, si je pouvais comme être libéré de ça, si je pouvais plus avoir ça dans ma vie, Seigneur, je pourrais tellement faire plus pour toi, tellement être consacré à toi, Seigneur. Et je suis un peu comme dans le passage que j'ai cité tout à l'heure, je sais pas comment prier. Je sais plus comment prier, je sais pas comment chercher une victoire, comme on dit, comment produire l'obéissance dans mon cœur à l'égard de cela. Et je suis confronté avec les Écritures, ce Dieu souverain qui permet ça dans ma vie, puis c'est là, puis c'est pris là, puis je dois vivre avec ça, parce que j'arrive pas à le faire décoller, mais Dieu est au contrôle. Ah oui, tout concourt à ton bien, mon Yannick. Seigneur, j'aimerais tellement t'aimer plus cette année, mais il y a cette affaire-là qui fait que, paf! Il y a cette personne-là, il y a cette situation-là qui fait que j'y arrive pas, Seigneur. Moi, je voudrais encourager les vieux croutons comme moi dans la foi. Ceux qui avaient essayé l'Évangile, essayé la sanctification, essayé tout ça, puis qui disent, peut-être pour un autre, moi ça ne marche pas. Peut-être le gars en avant, lui, tu sais, il a comme une couronne, il n'y a plus de cheveux, ça marche. Je ne sais pas. Mais moi, ça ne marche pas, cette affaire-là. Moi, je veux vous encourager à venir vous appuyer sur la grâce de Dieu cette année. À croire la parole de Dieu. Si vous avez décidé de suivre Jésus-Christ comme moi, tout concourt à votre bien. Tout ce que Dieu permet dans votre vie concourt à votre bien. Et ça se peut que vous ne sachiez pas comment prier dans ces circonstances-là. C'est pas tellement grave. Priez. Vous savez pas comment? Je sais pas comment, Seigneur. Au secours. Au secours. Parce que le Saint-Esprit, lui, sait qu'est-ce qu'il doit faire avec ça. Mais quand je m'en vais dans la prière, je suis en train de dire, Seigneur, toi, tu vas me conduire dans ça. Je m'en vais pas ailleurs, je m'en vais pas vers mes anciennes idoles pour me réconforter. Je suis là dépendant de toi, Seigneur. Et je m'appuie sur ta grâce parce que ta grâce est suffisante, Seigneur. Malgré toute ma faiblesse, ta grâce est suffisante. Je termine avec ceci. Je parle beaucoup de la grâce, on en parle beaucoup dans l'Assemblée ici. Esther me dit souvent, avec beaucoup de sagesse, Yannick, tu sais comme... ces choses-là, on dirait que tu mets à toutes les sauces. Ça veut dire quoi, la grâce, en fin de compte? La grâce, c'est la faveur de Dieu. La grâce, c'est une faveur, un support, un soutien, un appui, un regard favorable avec tout ce que ça implique quand c'est Dieu qui est favorable envers toi. Ça, c'est la grâce de Dieu. Cette grâce-là nous est donnée à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Sans le sacrifice de Christ, il n'y a pas de grâce pour moi. Il n'y a que le jugement que je mérite comme pécheur. Mais à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, cette grâce est rendue disponible. Premièrement, en me pardonnant de mes péchés, en faisant de moi un enfant de Dieu. Je reçois la grâce, je suis gracié, je suis pardonné. Maintenant, je suis de sa famille. Je suis de sa famille. Et on trouve de ces phrases dans le Nouveau Testament, « Que la grâce de Dieu soit avec vous. » Oui, mais tu es déjà pardonné. Non, mais un regard favorable de la part de Dieu. Que Dieu t'accompagne dans ce que tu es en train de faire. La grâce de Dieu était suffisante pour faire de vous un pécheur, un être saint qui va entrer dans la présence de Dieu, comme notre sœur Mme Martin, dans quelques heures peut-être. La grâce de Dieu était suffisante pour cela. La grâce de Dieu est suffisante pour vous supporter et vous soutenir à travers les épreuves, à travers les endroits où vous avez à travailler, à grandir. En 2012, ce que je souhaite pour vous et ce que je prie, c'est que vous aimiez beaucoup. Restez pas assis dans vos petites amertumes, vos petits découragements, mais décidez d'aimer énormément comme vous avez jamais aimé dans votre vie. Parce que c'est là que se trouve le bonheur, en aimant Dieu. Et que personne, aucun autre être, aucun autre objet ne vienne prendre la place de Dieu dans votre cœur. Et en aimant votre prochain, en vous donnant constamment, c'est là qu'est le bonheur. C'est en ressemblant à Jésus-Christ. Regardez bien Jésus, il aimait son prochain. Oh, le prochain Jésus était fatigué, il venait toujours le déranger avec toutes sortes de questions qui l'empêchaient d'aller prier, de se reposer. Il était après lui, il était toujours sur lui. Et pourtant, Christ était heureux. Parce que le bonheur se trouve là, à obéir à ses deux commandements. Et encore une fois, comme la semaine dernière, vous n'aurez pas la force de le faire. C'est ça que Josué a dit au peuple d'Israël, vous n'aurez pas la force. Vous n'aurez pas la force, car Dieu est saint. C'est tough, être comme Dieu. Cette année, chérissez. Chérissez l'évangile de Jésus-Christ. Chérissez ce que Christ a fait à la croix. Lorsque je vous parle de commencer vos journées avec l'évangile, je me réveille le matin, ce matin, le cadran sonné, il était 6 heures, il était 6h05, il était 6h10, là, mon cerveau s'est allumé. Là, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, je prêche tantôt. Je suis prêt? Moi, je suis pas sûr que je suis prêt. Je vais avoir un cours tantôt, on a plein de questions sur l'histoire de l'Église. Pff. OK, l'Évangile. Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix pour mes péchés. Tu m'aimes. Je ne mérite pas cet amour-là, Seigneur. Mais je me tourne vers toi et je sais que Dieu m'aime maintenant à cause de ce que tu as fait à la croix pour moi. Et Seigneur, je sais qu'hier, j'ai manqué là, je te l'ai confessé hier soir, je me suis appuyé sur ta grâce et je sais que probablement aujourd'hui, je vais manquer là, puis là, peut-être là. Mais Seigneur, je regarde à toi, à ta grâce, parce que je sais que tu es prêt à me pardonner, à me fortifier, à m'accompagner, Seigneur. Et ton esprit habite en moi. Et je commence ma journée avec l'Évangile. Et par la grâce de Dieu, je vais finir ma journée avec l'Évangile. Oh Seigneur Jésus, si tu m'aimes encore aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai été parfait aujourd'hui, parce que j'ai manqué là, puis là. Et je sais que ce sont des péchés que j'ai commis, Seigneur. Des péchés qui nécessitaient ton sacrifice, Seigneur. C'est pas de petites choses, Seigneur. Je t'ai pas ressemblé, j'ai pas reflété ta personne. Mais Seigneur Jésus, je viens à toi. Parce que tu m'aimes tendrement. Je sais, tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et lorsque tu m'as sauvé, tu me pardonnais de mes péchés passés, présents et à venir. Quand tu m'as pris, tu savais que tu pognais un citron. Mais tu m'as pris quand même, tu m'as choisi, tu m'as aimé. Tu as placé en moi ton esprit, Seigneur. Pardonne-moi pour tous mes péchés, Seigneur. Je me mets sous ta grâce pour mon sommeil. J'ai terminé ma journée avec l'Évangile. Cette année, en 2012, aimez beaucoup. Vous êtes heureux. Aimez beaucoup Dieu. Aimez votre prochain. Cette semaine, faites cet exercice-là. Cherchez un domaine précis. Cette année, en Église, toute l'Église, on va chercher à grandir dans notre amour pour Dieu en cherchant à grandir dans notre vie de prière. Comme en 2011, on a encore du chemin à faire. Ça, c'est 2012. tout le peuple de Dieu ici, toute l'Église, on cherche à grandir dans, c'est la direction qu'on va vous donner toute l'année, grandir dans notre vie de prière afin de grandir à l'égard du premier commandement. Et nous allons chercher à grandir dans notre évangélisation, partager l'Évangile avec des non-chrétiens, avec des gens qui n'ont pas reçu Christ. Et là, on va chercher à appliquer, à grandir à l'égard du deuxième commandement. Ça, c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vous en parle dans les deux prochaines semaines. Mais personnellement, vous, dans votre cœur, dans votre foyer, cherchez cette semaine. Faites l'exercice. Mettez ça en prière. Un domaine concret où je peux grandir par rapport au premier commandement. Un domaine où je peux grandir à l'égard du deuxième commandement. Seulement par la puissance de l'Évangile et par sa grâce. On prie ensemble? Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci. Oh Seigneur, Seigneur, merci de m'aimer. Merci Seigneur de te servir de moi. Des fois bien, des fois je ne suis pas à la hauteur, Seigneur, mais peu importe, tu te sers de moi, Seigneur, et ça c'est déjà un privilège extraordinaire. Merci Seigneur de m'aimer malgré ce que j'ai fait, ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je ferai demain, Seigneur, à cause de ton Évangile. Seigneur, j'ai connu, j'ai goûté que tu es bon, Seigneur. J'ai goûté qu'il est bon de marcher avec l'Éternel à la lumière de l'Évangile quotidiennement. J'ai goûté, Seigneur, que le bonheur se trouve à t'aimer davantage et à aimer mon prochain davantage, Seigneur. Moi et ma maison, cette année, nous allons chercher à grandir, à aimer davantage, à aimer beaucoup, comme on n'a jamais aimé, à s'aimer les uns les autres, à t'aimer toi, à aimer à l'extérieur de la maison, Seigneur, comme on n'a jamais aimé. Et Seigneur, chaque fois qu'on va manquer, c'est vers ta croix qu'on va se tourner en 2012. Chaque fois qu'on va être découragé, qu'on va être fatigué, c'est vers ta croix qu'on va se tourner, vers la puissance de ta mort et de ta résurrection. Et Seigneur, on va terminer cette année, si tu nous accordes de vie jusqu'à la fin de l'année, en célébrant, Seigneur, l'œuvre de transformation que tu auras opérée chez nous au cours de cette année. Nous te rendrons des louanges et des actions de grâce, Seigneur. Et cette Église, par la foi, Seigneur, va grandir aussi en 2012. Dans la prière, dans l'évangélisation et chacun dans nos foyers. C'est en Jésus-Christ que je te prie, Père, avec foi. Amen. Amen.